If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Comme si de rien n'était, il n'y a pas du tout eu de difficultés tout à l'heure, c'est pas vrai. On reprend le live maintenant. Désolée de ce petit contretemps. Donc là, normalement, monsieur Thiébaud devrait pouvoir se connecter. On attend 30 secondes pour qu'il soit là. Je vous refais des petits coucou à tout le monde. Hop, hop, c'est génial. Coucou, coucou, j'essaie de pas tourner la vidéo non plus, ce serait cool. Il est là, donc on va pouvoir le demander de venir. Hop! Enfin, attends, on attend. Qui confirme. Et c'est bon, ça se connecte. Yes, super, bonsoir. On y est arrivé, génial. Bonsoir.
On y est arrivé.
Comment allez-vous?
Mais ça va bien vous-même.
Ouais, super, merci. Bon, désolé, c'est vrai que bon, vous faites partie des premiers, donc on essuie un peu les plâtres, on fait en sorte de mettre en chose les choses en place doucement. Mais enfin, désolé de ce petit contretemps, mais nous sommes là. Les gens sont connectés, donc c'est cool. On a déjà une bonne quinzaine de participants, très sympa. Donc voilà, monsieur Thiébaud, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous dire où vous êtes en ce moment, comment vous vivez votre confinement. Déjà, où êtes-vous confiné?
Alors, donc je suis Vincent Thiébaud, député de la 9e circonscription du Bas-Rhin. Je suis au nord de Strasbourg, en Alsace, avec toutes les problématiques que vous connaissez sur le sujet sanitaire.
Absolument.
Moi, je suis déjà confiné avant le confinement, puisque dès le retour de la fin des travaux de l'Assemblée nationale, j'avais annoncé que je m'écartais d'un certain nombre de manifestations et que je n'assurais plus un certain nombre de rendez-vous. Donc, mon équipe est en télétravail depuis quasiment la fin février. Et donc, moi, je navigue en fait entre mon appartement, qui est en Alsace, et ma permanence, qui est à 5 minutes à pied de mon bureau. Donc, ce qui me permet un peu de sortir l'air tous les jours et de changer un peu d'horizon, d'essayer d'un petit peu de couper entre le travail parlementaire et la maison. C'est un luxe, j'avoue, que je reconnais que j'ai, même si je sors souvent très tard de ma permanence.
D'accord, donc vous continuez. Est-ce que votre quotidien a beaucoup changé depuis le début du confinement? Déjà, j'imagine que vous ne pouvez plus vous rendre à l'Assemblée, en ce moment.
Alors, il y a plusieurs aspects. Effectivement, sur le côté professionnel, il y a l'aspect effectivement télétravail avec l'équipe. Donc, on fait des points réguliers tous les jours. On est sollicité très tôt le matin. Même le week-end, c'est compliqué des fois de devoir couper parce qu'effectivement on est en soutien, il y a beaucoup de sollicitations, que ce soit des citoyens, que ce soit des entreprises, que ce soit des élus, que ce soit aussi des associations, ainsi de suite. Donc on est très sollicité, notamment par téléphone.
Quel type de sollicitation?
Alors ça va de la sollicitation à la simple question, demande de renseignement. Donc on a mis très rapidement en place dès la première semaine, on a mis notamment un formulaire en place sur Facebook en lien avec mon site web, pour pouvoir justement faire un suivi. Et on a mis en place des procédures de suivi avec l'ensemble de l'équipe, qui fait qu'on est toute sollicitation, nous les suivons, nous essayons de répondre très rapidement, et qu'elle soit par téléphone ou par mail ou notamment par les réseaux sociaux. Ensuite, comment je vis le confinement? Moi, j'étais avant dans l'informatique, donc je travaillais dans tout ce qui était le numérique, le digital particulièrement, même si j'ai encore du mal à récupérer mon compte Instagram, comme vous avez pu le voir, petit souci technique. Mais bon, j'avais déjà l'habitude de travailler notamment en télétravail, puisque dans mon ancien métier, j'avais une équipe de 25 personnes qui étaient réparties sur toute la partie est et nord de la France.
D'accord.
Donc, j'étais déjà familiarisé aux outils et très rapidement, en fait, on a déjà mis des outils mutualisés. Donc, dans l'organisation du travail, globalement, ça s'est fait très rapidement. On n'a pas eu de souci à se mettre en ordre. Là où ça change, effectivement, c'est l'intensité. L'intensité qu'il peut y avoir, notamment liée à la situation en Alsace, qui était très lourde, je ne veux pas vous le cacher, pendant les premières semaines.
Bien sûr.
notamment après 15 jours de confinement, où on a eu des... On appelle rarement le député pour dire que ça va bien. Donc, il y a eu des cas personnels aussi très lourds, notamment avec des témoignages par rapport, que ce soit des décès, que ce soit par rapport à des personnes qui ne pouvaient pas accéder, notamment dans le cadre du confinement, à des obsèques d'une personne qui, de leur famille qui est décédée. Donc, c'était assez lourd, il fallait faire de l'accompagnement à ce niveau-là.
Bien sûr.
Après, à titre personnel, puisqu'il y a aussi le côté personnel, effectivement, ben, moins de déplacements. Je retrouve certains plaisirs, je dois
Oui.
l'avouer. Notamment, ça fait bien longtemps que je n'avais pas passé, puisque quand je suis à l'Assemblée nationale, je suis très près à l'Assemblée nationale avec des séances très tard la nuit. Quand je rentre en circo, même le week-end, je suis très sollicité, donc très présent sur le terrain. Et ça faisait bien longtemps que je ne savais plus ce que c'était que profiter de mon canapé le dimanche après-midi, je dois avouer. Donc, j'en ai profité à l'occasion pour faire des petites choses qui font du bien aussi, hein. Je pense qu'il est important dans ces moments-là de se faire du bien. Je me suis remis à la guitare, je me suis remis à la
Ah,
lecture,
génial.
ces petites choses
Super.
sympas. Sympas
Super.
qui permettent aussi un peu de couper, même si c'est vrai que c'est pas évident, parce que je l'avoue aussi, en tant que parlementaire, on essaie d'être très présent et en même temps, de manière très humble, très très humble par rapport à j'étais en contact quasiment quotidien avec tous les services de soignants qui ont été vraiment exemplaires ici en Alsace.
Sure.
Et on a un peu cette frustration, je le dis franchement, frustration et cette impuissance de ne pas pouvoir les aider plus de la manière du possible.
Sure.
Alors, j'ai participé à des portages de repas, notamment vers les soignants.
Ah
Je
oui.
me suis inscrit à des réseaux aussi d'aide, d'entraide aux personnes âgées. Je suis allé changer des boîtes enfin pas des boîtes, des bouteilles de gaz ou de ce genre de choses, quoi.
Ah oui, c'est
Pour
bien ça.
participer
Ça
aussi
doit
à
être
ma
très
manière,
apprécié
voilà.
que vous remontiez un peu les manches.
Oui, mais je le fais de manière très humble et j'avoue en toute honnêteté, je ne communique pas trop dessus, je pense aussi par pudeur et par respect aussi et par rapport à ceux qui sont vraiment au fond,
Davantage, bien sûr.
qui sont dedans. Et je veux dire, comme dit, c'est vraiment du humble niveau, on est plus sur la logique du devoir citoyen que du devoir du parlementaire.
Bien sûr. Et donc, parlez-vous de nous un peu. C'est votre premier mandat de député, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Premier mandat
D'accord.
tout court, puisqu'en fait, avant
D'accord.
le 6 avril, le 10 avril, pardon, 2016, je n'ai jamais adhéré à quoi que ce soit en politique.
D'accord.
Donc, pourquoi, vous allez me dire, j'ai choisi. J'ai choisi, j'ai toujours été très intéressé par la politique, mais sans vouloir forcément y participer. Et là, je me suis dit, on avait l'opportunité un peu de venir bousculer un peu le modèle. Et au-delà du côté idéologique ou autre, je pense qu'on avait effectivement un peu de ce besoin de coup de fouet. Et quand je vois un peu ce qui s'est passé pendant 2 ans, les réactions qu'il y a eu en France, qui sont des fois un peu violentes, mais en fait, c'est assez marrant parce que je fais beaucoup de similitudes par rapport à mon ancien métier, où j'étais dans le changement de projet informatique, et où le premier facteur du frein au changement et le plus gros sujet à gérer dans le cadre du changement, c'est bien l'humain. C'est l'humain, et donc je retrouve un peu mes réflexes effectivement dans l'ancien métier. On est clairement dans cette phase-là, c'est qu'aujourd'hui, accompagner le changement. Alors c'est compliqué, des fois frustrant, mais après, il faut savoir trouver le juste équilibre pour essayer de se dire, ben voilà, on n'est peut-être pas allé aussi loin de ce qu'on voulait aller, mais c'est-à-dire que je dis toujours, on veut faire 100 km, des fois on s'arrête à 60 ou à 70. Il y a deux points de vue. Soit je pleure parce que j'ai pas fait 30 km restants ou j'ai pas fait 40 km restants, ou alors je suis satisfait déjà des 60 km qu'on a fait, qui sont déjà importants. Après, c'est vrai que les attentes de changement étaient très fortes, elles sont encore très fortes. Et je pense que l'occasion que nous avons avec la crise là, nous y travaillons d'ailleurs au niveau de l'Assemblée. Il y a encore l'occasion d'aller encore plus loin, peut-être, et d'accélérer cette transformation, elle est absolument nécessaire. Même si
Alors, on a
souvent,
Rémi qui nous
elle n'est pas
demande.
forcément
Pardon.
comprise. Oui.
Ouais, bien sûr. Il y a Rémi qui vous demande, est-ce que vous vous situez plutôt à droite ou à gauche?
Je ne vais pas vous faire la réponse de Normand.
D'accord.
Pour être tout à fait franc, moi, je suis plutôt si je regarde ma jeunesse et mon profil, j'ai un petit côté rebelle punk. Je ne le cache pas. Je le cache pas. Tout dépend de ce qu'on entend par gauche et droite. Moi, j'ai toujours dit, j'ai le cerveau, ça a raison, et j'ai le cœur qui est gros comme on pourrait l'avoir pour la gauche. Et je pense que la bonne réponse, un peu, je suis un peu à l'image de la culture alsacienne. La culture alsacienne, c'est une culture qui est profondément humaniste, où la notion de solidarité est vraiment ancrée dans l'histoire. Quand on connaît un peu les problématiques, enfin les problématiques, les spécificités du droit local, il faut savoir que notamment en Alsace, il y a obligation d'aller accompagner les plus sensibles. D'ailleurs, c'est là-dessus que s'est constituée aussi cette fameuse mutuelle complémentaire que nous avons, le droit local spécifique. Et en même temps, il y a ce côté très sérieux pragmatique travailleur. Est-ce que je suis un centriste? J'ai du mal, en fait, j'ai du mal avec ce genre de questions, sincèrement, à me situer. Ce que j'essaie d'être faire, c'est j'essaie d'être ce qui pour moi est le plus juste entre effectivement le côté volonté idéaliste, humaniste, et en même temps, malheureusement aussi, une réalité concrète où il faut prendre en compte, trouver un équilibre entre les différentes personnes et les différentes idéologies qu'il y a dans notre pays.
Est-ce qu'on peut dire que finalement votre engagement politique, il est venu de la naissance du mouvement d'En Marche? Est-ce que c'est ça qui vous a vraiment motivé, de ce qu'on comprend, hein, que vous disiez? Est-ce que dans un autre cas de figure, vous n'auriez pas saisi l'opportunité? Est-ce que vous aviez ça à l'esprit,
Ouais.
ou est-ce que c'est vraiment la naissance du mouvement qui vous a convaincu pour aller d'avant et vous lancer dans cette carrière?
Alors,
Qu'est-ce qui vous a plu dans
je
le
vais tout.
mouvement En Marche, on me demande aussi.
Alors, pour tout à fait clair, en fait, je vous même raconter l'histoire, c'est même avant En Marche. C'était 2, 3 mois avant la création du mouvement. J'étais avec une amie qui, pareil, n'avait aucun engagement politique. On regardait ça, on s'intéressait, mais on se disait bon. Et on suivait un peu Emmanuel Macron, notamment ses explications. On s'est dit, mais ce type-là, il nous parle. Il nous parle dans sa volonté de vouloir faire changer les choses, de vouloir transformer. Et on s'était même dit écrire une lettre qu'on n'a jamais envoyée pour dire, mais il faut créer un parti politique. Ou en tout cas, créer un mouvement. Parce que même le terme parti, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette partie-là. Et en fait, il l'a fait avant qu'on ait envoyé la lettre. Voilà. Et c'est là où j'ai adhéré, sous me dire, ben voilà, ben j'adhère. Et au fur et à mesure des réunions, des gens que j'ai rencontrés, ben je me suis. Il n'y avait aucune volonté à ma part, en tout cas au départ, d'être élu déjà. C'était vraiment pas une volonté ni un objectif pour moi. Mon engagement n'a aucun rapport avec ça. C'était vraiment effectivement l'idée de dire, ben voilà, je veux participer à quelque chose. Un mouvement qui était jeune, qui porte certaines valeurs auxquelles je me retrouvais. Et voilà, ça s'est fait au fil de l'eau. Mais voilà comment ça s'est réalisé. C'est dans la continuité de l'engagement initial.
Et donc, on demande là sur le chat, dans votre travail parlementaire, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale ou plutôt le travail de terrain?
Ben, en fait, moi, j'essaie toujours d'avoir une corrélation entre ce que je fais à l'Assemblée nationale et les sujets que je porte au terrain. Déjà, pour être bien cohérent, pour ne pas avoir de perdition, je dirais, entre ce que je peux faire ici en circonscription et l'Assemblée nationale. Avoir toujours une ligne cohérente sur les sujets que je porte. Globalement, je dirais les deux, mon général, mais les deux, autant sur le terrain, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment au contact des gens que j'aurais jamais rencontrés par ailleurs. On a une richesse associative ici qui est quand même extraordinaire. Le contact des personnes, rencontrer des personnes que j'aurais déjà rencontrées, rencontrer des cas aussi très difficiles, puisque on est aussi confronté à la réalité des plus démunis, des plus fragiles. Et on essaye, notamment avec mon équipe, toujours de se dire. Dès qu'on estime qu'il faut qu'on intervienne, d'où que ça vienne. D'ailleurs, on fait très peu de politique partisane, en fait, dans nos actions. C'est vraiment un acte, on s'est dit, quand il y a un sujet qui est juste, on le porte, d'où qu'il vienne. Que ce soit un opposant ou autre, s'il y a un vrai sujet qu'on peut accompagner, on le fait. Après, c'est trouver cette cohérence au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, on a différents types de profils de députés. Il y en a certains qui essaient de porter des grandes causes, en tout cas de voilà, qui essaient d'avoir le projet de loi qui en correspond. Moi, je suis plutôt d'avis de voir dans l'ensemble de tous les projets de loi quelle est la petite pierre que je peux apporter d'ajustement sur des sujets qui me semblent justes et essentiels pour qu'il y ait une répercussion dans le quotidien des Français. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est dans le travail, c'est le travail législatif, en fait, il n'est pas propre à l'Assemblée nationale. Sur tous les gros sujets de loi, on réunit l'ensemble des acteurs ou des citoyens. On fait des ateliers préparatifs, on prépare des notes, des fois enfin, majoritairement aussi qu'on envoie soit aux parlementaires qui sont rapporteurs, mais aussi au ministère, pour voir quels sont les sujets à identifier, à traiter dans la loi, et essayer d'après les traduire, soit sous forme d'amendement, soit pour qu'il y ait une réponse claire du gouvernement sur ces sujets-là. Les deux sont passionnants. Après, je l'avoue que notamment j'ai pu vivre plusieurs fois, là j'étais dans la réforme des retraites, mais aussi dans la loi Elan, où j'ai fait plus de 12 jours d'affilée à l'Assemblée nationale, avec des débats qui sont des fois très très longs, c'est pas le plus marrant.
Oui, non, c'est sûr. Est-ce que vous pensez en tant que député que vous avez le pouvoir et les moyens de faire vraiment changer les choses?
Ben, tout dépend l'objectif que vous donnez. Moi, dans le changement, moi, j'ai toujours le principe, et c'est lié à mon expérience, que le changement se fait par des paliers. Qu'à un moment donné, moi, je préfère chercher des petites batailles qui vont changer le modèle, la manière d'être, comme l'effet papillon, en fait. Hein. Alors, je vais peut-être faire un petit peu de philosophie, mais c'est un peu les micro et les macrosphères de Pythagore. C'est-à-dire qu'en fait, d'essayer de voir, je connais mes limites. Je connais mes limites physiques et je fais en fonction de ces limites-là, que ce soit mes limites d'influence ou mes limites du physique. Et j'essaie de rester dans cette sphère-là. Et je pense que le changement, en fait, pour qu'il dure dans le temps, il doit s'inscrire dans le temps. Et donc, par là, il faut effectivement un certain nombre de paliers. Après, dans le changement, il y a le changement législatif, mais je pense qu'il y a aussi le changement de la manière d'être. Moi, j'essaie de rester le plus simple possible, le plus abordable possible. Comme dit, je pense que les gens sont usés par les guéguerres politiciennes, où on réagit sur les idéologies. Moi, j'en fais pas sur le terrain. Comme dit, quand j'ai un élu local, même si je sais pertinemment que voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt sensible à l'opposition, mais qui a un vrai sujet, et on doit travailler sur ces sujets-là pour le bien des citoyens, bon, on travaille ensemble. Voilà, ça c'est mon approche. Et dans la manière d'être, on peut le voir sur le terrain, effectivement, qu'il y a déjà un changement. Les gens se disent, ben, on peut faire autrement, en étant peut-être plus simple, en étant plus ouvert aussi. Moi, j'étais très surpris au début de mon mandat, quand j'allais à des manifestations où je me retrouvais avec les citoyens, et j'avoue, j'adore ça, où on discute après. Puis quand ils me disaient, mais. C'est impressionnant de voir un élu qui est abordable. Et je leur dis, mais ils sont tous là, les élus. Il me dit, non, non, ils ne sont pas tous là. Et effectivement, je me retournais, mais souvent, je voyais des élus qui restaient entre eux, qui parlaient entre eux, alors qu'on avait tous les citoyens qui étaient autour. Et bon, nous, les élus, on se connaît, on peut se voir, on s'appelle ou autre. Quand ce qui compte dans ces moments-là, effectivement, c'est être au plus proche du citoyen et de pouvoir être près du citoyen. Mais je pense que ça, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps, effectivement. Montrer
Bien
qu'on peut
sûr.
faire différemment.
J'aurais bien aimé qu'on fasse, si ça vous dérange pas, un petit point sur comment se passent les travaux parlementaires en ce moment. Vous, donc, vous êtes confiné en Alsace, en Marin, et donc vous ne pouvez pas vraiment prendre part au débat en direct sur les textes qui sont soumis à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Comment ça se passe concrètement?
Alors, il y a différentes choses. Donc depuis le début du, parce qu'officiellement, au début du confinement, on était encore en arrêt de nos travaux parlementaires, puisqu'on avait cette trêve qui était prévue le début mars jusqu'au 22 mars, notamment dans le cadre des municipales. Donc très rapidement, on a mis en place notamment des conférences via des outils tels que Zoom, hein, c'est connu, sur lesquels on a commencé déjà à échanger. Donc là aussi, il y avait besoin et on a mis en place tout un ensemble de procédures pour permettre de remonter à travers certains parlementaires, d'avoir un canal direct avec le gouvernement. On a fait beaucoup de réunions, vidéoconférences, et on en fait beaucoup avec les ministres pour échanger sur certains sujets. Ensuite, il y a les travaux de commission qui ont repris,
Maintenu.
même de manière plus intense qu'en fait qu'à l'Assemblée. C'est-à-dire que là, en développement durable, on a actuellement entre 2 et 3 auditions par semaine. Alors qu'en moyenne, en moyenne, c'est une audition le mercredi matin. Et à côté de ça, on a des groupes de travail qui sont propres au groupe parlementaire ou propres à la commission. Notamment là, au niveau de la commission, dans le cadre de la gestion de l'après-crise, on s'est notamment développement durable, on a pris les propositions du Conseil citoyen par rapport au climat, et on est en train de travailler dessus pour voir comment on peut l'adapter par rapport à, éventuellement au sujet législatif ou pas, quels sont les sujets qu'on peut porter, qu'on peut enrichir et qu'on doit adapter aussi par rapport à la crise ou la pré-crise qu'on aura.
Bien sûr.
Ensuite, ça, il y a toutes les réunions de groupes parlementaires, il y
Ouais,
a,
qui sont retenus.
concernant les votes, on a des concertations avant, on a deux, trois réunions de groupes parlementaires où on a l'ensemble où on peut s'exprimer. Donc c'est des travaux intensifs, des fois usants, je dois avouer. Pour donner une idée, jeudi et vendredi de la semaine dernière, j'ai dû faire, je crois, en 2 jours, plus de 20 heures de vidéoconférence. Voilà, faut s'adapter, c'est pas forcément évident, surtout quand on a un petit groupe, ça va, mais quand il y a 100 parlementaires à gérer, c'est des fois, c'est un peu. Mais ce
Bien
qui est
sûr.
là, ce qui est vrai aussi en réalité. La réalité. Sauf que là, l'avantage, si vous me permettez, sauf que là, l'avantage, on peut l'étaler sur la semaine, alors que généralement, quand on est à l'Assemblée nationale, ça se fait en condensé sur 2, 3 jours.
Bien sûr, puisque le reste du temps, vous êtes en circonscription.
Voilà.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'annonce d'Édouard Philippe cet après-midi concernant le déconfinement? Déjà, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce qui est beaucoup
Bah,
d'informations.
après, ce que j'ai retenu, je pense effectivement, c'est les trois axes, hein. C'est tester, isoler, enfin protéger, tester, isoler. Et je pense que ça, c'est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'attend à des choses précises, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Je suis plutôt rassuré du fait qu'il y ait une logique qui se fasse par territoire, notamment ici en Alsace, c'était très attendu, parce qu'ici en Alsace, comme vous à Paris, ce n'est pas la même situation que nous avons en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est clair qu'on ne peut pas envisager donc les déconfinements de la même manière. Après, il y a beaucoup de points qui vont être détaillés, notamment dans le cadre de la proposition de loi qui va se faire la semaine prochaine, qui va discuter samedi au Conseil des ministres. C'est une vision plutôt réaliste, même si encore, comme dit, il faut encore beaucoup détailler.
Bien
Mais
sûr.
elle n'est pas non plus une surprise pour moi. Elle était assez conforme par rapport aux choses qu'on avait déjà discutées au sein du groupe parlementaire. Après, les questions qui vont se poser aujourd'hui et qui est la grande interrogation, c'est clair, c'est par rapport à la condition sanitaire. Après, ce qu'il faut bien comprendre, la problématique du déconfinement, les gens ont dit, mais on ne veut pas se déconfiner parce qu'on a peur d'être malade. En fait, la réalité, avec ce virus, tant qu'on n'a pas de vaccin, c'est que le risque de tomber malade, il est aussi vrai le 11 mai qu'il le sera le 1er septembre. La seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le 11 mai, du point de vue des conditions sanitaires, notamment l'état de nos services de santé, nous permettront de pouvoir assurer le suivi de l'après-déconfinement. Ce gros problème, il est là, c'est que le virus, tant qu'on n'a pas de vaccin et tant qu'on n'a pas atteint ce fameux seuil de taux d'immunité de la population, mais il continuera à circuler. Et là, il va
Est-ce que vous
falloir
pensez
s'adapter
de... Ouais.
pendant des mois.
Je vous en prie, pardon, c'est moi. Pour les écoles,
Non, j'ai.
est-ce que ça
Oui.
vous semble réaliste d'ouvrir les écoles à partir du 11 mai, puis ensuite du 18 mai, que certains enfants portent des masques, pas d'autres? Ça va être un peu compliqué quand même, non? Il y a beaucoup d'attentes de la part des citoyens sur ces questions.
Alors, il y a beaucoup d'attentes par rapport à les citoyens qui sont légitimes, tout à fait légitimes. Mais comme dit, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en termes de risque sanitaire, le risque sanitaire sera le même le 11 mai qu'il ne le sera le 1er septembre. Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent en septembre.
Dans ce cas,
La
pourquoi
seule
on réouvre
question.
les écoles alors? Pourquoi on n'attendrait pas septembre?
Pourquoi on n'attend pas 7 ans? Il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. Effectivement, il y a le sujet au moment donné de la reprise économique qui est essentielle. Elle n'est pas essentielle que pour assurer l'économie du pays. Elle est essentielle aussi derrière pour un point de vue social, parce que je rappelle qu'une économie, c'est aussi avant tout, et derrière, c'est le plus gros sujet, hein, c'est des emplois, c'est des personnes, c'est des familles qui sont derrière. Donc à un moment donné, il faut qu'on assure aussi la continuité économique, qu'en fait, on a une économie qui est interliée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que notamment sur l'approvisionnement, que ce soit alimentaire ou médical ou autre, il y a des industries qui au début ont été confinées, sont arrêtés, on est obligé de relancer très rapidement, parce que forcément tout est interlié. Donc il y a déjà ce sujet-là, c'est comment assurer effectivement la continuité économique et pouvoir s'assurer, se doter. On a beaucoup de nouveaux ici d'industries autour du textile qui se sont relancées, justement pour assurer la production de masques. Concernant le masque, qui n'est pas une obligation, hein, je rappelle, il est obligatoire essentiellement soit si on est malade, identifié comme étant malade, ou dans les transports publics. Ce qu'il faut bien comprendre, et là je vous quand même un petit peu insister, parce que beaucoup de monde focalise sur le masque. J'échange beaucoup avec les médecins et notamment les services de santé autour de moi. ils me disent, il ne faut pas qu'on croie que parce qu'on a un masque, je suis protégé de tout. Le premier risque de contamination, c'est la main. Et je vous amuse juste à voir, amusez à faire attention le nombre de fois où vous mettez la main au visage
Bien sûr.
dans une minute ou dans une heure. Donc même si on a un masque, le masque vous protégera effectivement, vous protégera déjà les autres si au cas où vous êtes malade de vos projections, ou
Ça
éventuellement si vous êtes dans un contact
aussi.
rapproché. J'insiste bien sur le terme rapproché, notamment dans des lieux confinés. Mais le point essentiel, ce que faut tout le monde ait en tête, c'est vraiment les gestes de barrière physique. C'est vraiment les gestes effectivement liés au toucher qui sont les points principaux. Le point d'entrée le plus fragile du virus dans le corps humain, ce sont les yeux. Ce n'est pas le nez, ce n'est pas la bouche, ce sont les yeux. Parce que quand on touche quelque chose, on a ce réflexe de faire ça. Mais là, effectivement, la continuation, elle est, je ne dirais pas qu'elle est quasi immédiate, mais pas loin. Donc après, concernant les enfants, on a quand même aujourd'hui, on est quand même plutôt rassuré. C'est pas la problématique par rapport aux enfants, on est plutôt rassuré, ce ne sont pas aujourd'hui la population, ça c'est quasi une certitude, et on le voit d'après les statistiques, ce n'est pas la population la plus fragilisée, bien au contraire. C'est celle qui résiste le mieux aux musiques, au virus. Alors effectivement, il y a toujours le cas exceptionnel, mais sur la grande masse et pas proportionnellement, c'est la population la plus résistante, et pour la majorité desquelles, il ne se passe quasiment rien. Ce qui, d'ailleurs, pour la majorité des personnes, à plus de 85%, on ne se remarque même pas qu'on est malade. Moi, je pense que j'ai été malade, que j'étais atteint, mais je l'ai su après avoir discuté avec un médecin. Il m'a dit, il y a de fortes chances que tu l'aies eu. Alors que moi, j'ai eu quelques gènes, mais je ne pensais pas que c'était ça. Donc c'est cette partie-là. Après, la problématique, c'est effectivement, c'est s'assurer qu'on ait les conditions, qu'on ait les capacités de pouvoir assurer les conditions sanitaires. C'est qu'on ait les capacités de pouvoir accueillir des enfants dans des salles de classe où il y a 1 mètre de distance minimum entre les tables. Donc c'est toutes ces conditions-là qui font qu'aussi que peut-être qu'il y a des endroits où les écoles ne vont pas forcément ouvrir. Notamment, je sais qu'ici en Alsace, il est question éventuellement de ne pas forcément ouvrir les écoles le 11 mai. Ce n'est pas encore décidé, c'est la préfecture de devoir trancher. Et c'est un gros travail qui doit être fait avec les élus locaux aussi.
Ouais, j'imagine. Il y a pas mal de questions qui tournent autour aussi de la sortie de crise, au-delà du déconfinement. Il y a aussi la question de vous parliez de reprise économique, de difficultés sociales, etc. Beaucoup sont inquiets pour leur avenir, parce que beaucoup vont se retrouver dans des
C'est logique.
situations précaires compte tenu de la situation actuelle. Quelles vont être les premières mesures, d'après vous, qui vont être prises par le gouvernement? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Ou si vous n'en avez pas, quelles devraient être ces premières mesures visant à faire barrière à l'extrême pauvreté et à la pauvreté aussi, à la paupérisation de la société de manière générale?
Alors, là justement, dans le sujet de paupérisation, le sujet de mettre les enfants à l'école est un des sujets. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont coupés de l'éducation. Alors moi j'ai 2 enfants, ils sont avec leur mère parce que je suis séparé à Paris. Alors j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui adorent lire et passer du temps à apprendre. Donc pour eux ça se passerait très bien. Et apparemment ils vont même plus vite que quand ils allaient à l'école. Donc ça me fait réfléchir. Mais après, on a beaucoup d'enfants qui sont dans des environnements familiaux où ils n'ont pas la possibilité, ou en tout cas qui ne leur permet pas aujourd'hui d'avoir une éducation. Et donc, on a un risque de retard, de vrai décalage entre les populations. Il y a aussi le risque, pour revenir sur le sujet pauvreté, on sait aussi qu'il y a les risques aussi de violence aux enfants, qui n'est pas neutre, hein, dans le même cadre de violence conjugale. Donc là aussi, il y a un sujet au moment donné de pouvoir identifier aussi cette population et de ne pas les laisser au bord de la route parce qu'on l'a laissé enfermer entre elles. Sur les sujets pauvreté, le premier sujet déjà, c'est d'essayer de sauver le maximum d'entreprises, donc des emplois. Ça, c'est le point essentiel. Quand on parle de relance économique, ce n'est pas juste pour mousser le CAC 40, c'est bien de sauver aujourd'hui le maximum d'emplois, notamment chez les artisans, les commerçants et les TPE et les PME. Et notamment, il y a déjà des mesures qui ont été prises, notamment autour de toutes les activités autour de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, pour leur permettre de pouvoir continuer. Il y a un plan qui a été présenté notamment vendredi, pour leur permettre, effectivement, eux, qui sont dans une situation où ils ne pourront pas rouvrir, de pouvoir effectivement essayer de sauver le maximum d'entreprises. Après, il y aura des mesures qui vont être faites. On a un plan aujourd'hui qui a été fait sur un plan économique d'accompagnement, mais qui devra certainement s'accompagner d'un plan de relance. Un plan de relance, parce que relancer une industrie ou une entreprise qui a été fermé pendant des semaines, ça coûte cher aussi. Ça coûte cher. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, moi, dans mon secteur, ont préféré tourner, même ne serait-ce qu'à hauteur de 15% de la production, mais parce que le fait de tourner à 15% de la production, et pour eux, était un déjà, ils pouvaient le faire dans des conditions sanitaires favorables, déjà, c'était important. Donc, ils avaient possibilité de le faire. Et surtout, ça, ils savaient aussi que pour la reprise, ils auraient beaucoup plus de facilité à pouvoir reprendre très rapidement. Donc, il y a encore des mesures qui vont être discutées aussi dans le cadre d'un plan de relancement. Pendant un plan de relance. Et le sujet, effectivement, de la précarité va être un grand sujet. Va être un
Bien
grand, grand
sûr.
sujet parce qu'on a des cas, des populations qui aujourd'hui font des petits boulots. Je pense notamment aux femmes de ménage, ces aides à domicile qui sont déjà ne gagnent pas beaucoup. Faut le dire, c'est pas des, qui sont déjà une population qui flirte avec le seuil de pauvreté, qui aujourd'hui n'ont pas de travail. Certaines n'ont pas pu parce que. Pour X raisons, on n'a pas pu forcément définir l'activité du chômage partiel. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a déjà eu un renforcement qui a été fait par rapport notamment à l'accompagnement sur le loyer, parce que le loyer est une forte charge dans les foyers. Donc là, il y a un dispositif qui a été fait par Jeanne Normandie. Mais il faudra encore renforcer certainement par les aides sociales. Et là, il y aura un gros travail à faire. Le plus gros travail. Ma crainte, ce n'est pas forcément sur les enveloppes. Ma crainte, ça va être sur l'identification des personnes. Parce qu'on a aussi offert un public, et on a pu le voir à l'époque du Gilet jaune, hein. Les personnes qu'on rencontre sur Rond-Point sont des gens qui étaient éloignés en fait, de la société, par pudeur, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas capacité, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de s'exprimer. C'est des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est outils numériques. Donc, ce n'est pas spontanément des gens qui vont aller faire des recherches sur Internet. Aujourd'hui, le lien humain, il n'existe plus. Parce qu'on est tous confinés, donc il y a un vrai sujet sur ces gens-là.
Bien
Et
sûr.
donc là, il faut voir aussi comment on l'organise pour pouvoir identifier les personnes. Là, il va falloir faire un gros travail, notamment avec les élus locaux, que ce soit les collectivités territoriales comme les maires, ou également aussi les départements
Bien sûr.
qui ont cette compétence, notamment ce sujet RSA et ce sujet social. Donc pour l'instant,
Tant que... Ouais,
oui.
pardon, je vous ai pris.
Non,
Désolée. En
pour
tant
l'instant,
que
il y a.
décideur
Oui,
public,
pardon.
vous, face à cette crise, quelle est votre plus grande inquiétude?
Moi, il y a eu plusieurs niveaux. Ma première inquiétude, effectivement, c'est que la crise sanitaire se transforme par une crise économique. Durable et profonde. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'aujourd'hui, par rapport à une crise comme 2008, on avait une crise qui était une crise structurelle par rapport au marché financier, notamment par rapport à la finance. Aujourd'hui, la partie banque ou autre est plutôt protégée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, l'importance qu'ils ont, notamment dans les aides aux économies, les aides aux entreprises, les aides aux artisans et aux commerçants. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour
Enfin, les
l'instant.
prêts, vous voulez dire.
Oui, mais parce que les banques sont en mesure de pouvoir faire les prêts, tout à fait.
Oui.
Même si elles sont garanties par l'État, c'est quand même les banques qui garantissent les prêts, même si elles sont garanties à 90% par l'État. Donc ça, c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que si notre système financier tient le coup, c'est qu'on est en capacité aussi de pouvoir générer l'investissement ou des aides qui vont accompagner les entreprises, donc sauver les emplois derrière. Après, mon inquiétude, après, c'est que. On peut ressentir effectivement un éloignement, une fracture sociale qui s'agrandisse dans le pays, qu'il y a des gens qui s'éloignent de plus en plus de la société, ce qui est déjà le cas pour la très grande pauvreté. Donc ça, il va falloir un gros, gros, gros sujet de vigilance. Après, ce qui me fait peur, c'est que notre pays a su faire dans cette crise, malgré au niveau de la population, moi je vois localement, on a eu vraiment une belle union solidaire. Une belle union solidaire. L'ensemble des élus localement, on a mis de côté nos divergences politiques quand il y en avait ou pas. On a vraiment tout le monde a voulu travailler et a fait bloc pour travailler dans le même sens. Et je pense que cette union, il va falloir la garder. Je dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'opposition. Je dis juste qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait un temps, il y aura le tas de temps des débats contradictoires, il devra avoir lieu. C'est le principe de la démocratie. Mais je ne voudrais pas que non plus cette union se délitère et juste au final, elle desserve tout le monde. Et comme j'ai déjà pu m'exprimer sur le sujet, je pense que notre pilier le plus important actuellement, c'est celui de la fraternité par rapport à la liberté et l'égalité. Il faut que cet esprit de fraternité, on en a besoin de cette union nationale, on en a encore besoin, même dans l'après-crise, ça va durer. Et à un moment donné, il y a un travail introspectif collectif, mais aussi individuel à faire sur le sujet.
C'est certain. Comment vous pensez que vous, en tant que parlementaire, en tant que député, vous pouvez favoriser cette solidarité, cette fraternité, notamment en termes de politique publique? Je veux dire, comment, en matière législative, vous pouvez faire en sorte de renforcer ce noyau, les noyaux associatifs peut-être dont vous parliez? Est-ce qu'il va y avoir davantage d'aide aux associations? Comment l'État ou le décideur public entend procéder?
Alors, à ce niveau-là, notamment toute la partie de l'aide, l'accompagnement aux associations, aujourd'hui déjà, il y a des fonds qui sont déjà mis au niveau des dispositions des régions qui portent ce sujet-là. Je pense notamment à la région Grand Est qui a fait un fonds qui s'appelle le fonds Résistance. Après, il va y avoir aussi des collectivités qui vont devoir aussi un rôle à jouer, ou que ce soit également les départements. Au niveau législatif, bah, nous, on va voir dans le plan de relance, effectivement, comment sont fléchés les budgets qui vont être consacrés. Moi, je pense notamment à. Il y a des associations auxquelles on ne pense pas systématiquement, qui sont en difficulté, qui ont joué un très grand rôle dans la crise. Je pense notamment aux associations de la sécurité civile. La protection civile, par exemple, la Croix-Blanche, toutes ces associations-là, pardon, qui ont mis à disposition des véhicules ou ont été réquisitionnés, ont fonctionné sur leurs fonds propres. Certaines aujourd'hui sont en vraie difficulté financière et elles ont prouvé leur efficacité. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi dans la prise de décision, de la décorrélation entre le national et le local. On voit bien dans la crise ce qui a très bien marché, et là où ça a le mieux marché, c'est qu'à un moment donné, il y a une responsabilisation et une union des acteurs locaux, qu'ils soient élus ou pas élus, mais quand tout le monde s'est mis à table, a pris une initiative locale pour aller dans le bon sens. Donc là, ça peut se poser une question effectivement sur notre organisation administrative et notre organisation d'organisation territoriale. Je suis convaincu que les solutions, elles devront se trouver au mieux au niveau du local. Les acteurs locaux, les gens locaux savent ce qu'il faut faire. Il faut que l'État reste vraiment dans cette logique de fixer un cadre et de donner justement assez de faiblesse, pas de faiblesse, de flexibilité, pardon, et de souplesse à ces acteurs-là pour pouvoir agir sur le terrain. Et malheureusement, on a pu le voir, ça fait écho, pas partout, mais on a pu voir qu'effectivement, certaines administrations, grandes administrations, ont fait défaut parce que rigides, parce qu'elles appliquent au consensus cette logique de verticalité descendante, et ce qui a manqué, justement, de la réactivité, parce qu'il n'y avait pas la souplesse, la flexibilité nécessaire à l'ensemble des acteurs sur le terrain de pouvoir agir.
Alors, on a une petite question qui nous vient des personnes qui nous suivent.
Oui.
C'est quelque chose dont on a parlé assez brièvement avant que vous arriviez sur le live. On parlait du plafonnement du prix des masques. Beaucoup de personnes ont été assez surprises de cette mesure. Pardon, de l'annonce de la secrétaire d'État disant que le prix des masques ne serait pas plafonné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah, la problématique, il y a masque et masque. C'est-à-dire, je m'explique, notamment ici, nous, en Alsace, en Alsace, c'est donc les deux départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin. Les départements et les collectivités territoriales, donc les EPCI, les mairies, ont fait le choix d'acheter des masques. Des masques qui, par contre, ne sont pas des masques à usage unique, ce sont des masques qui sont des masques réutilisables, lavables, pas forcément FFP1 ou FFP2, mais qui correspondent aux normes AFNOR qui ont été publiées dans le cadre de ces masques-là. Après, il va falloir réguler, ça c'est clair. Maintenant, la problématique des masques, parce que quand on prend les FFP1, les masques médicaux, FFP1 et FFP2, par les pharmacies, généralement, ça s'est régulé. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Après, la problématique, c'est qu'on a effectivement, sur le marché textile, on peut avoir différents types de masques, parce qu'il y aura différents types de modèles. Il y aura des masques à usage unique, il y aura des masques qui seront lavables ou pas lavables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je comprends l'inquiétude. Après, je fais confiance aussi aux consommateurs pour faire la différence entre un masque qu'on vous vend à 20 euros sur Internet et un masque qu'on va acheter à 1 euro en pharmacie. Voilà. Après, malgré tout, je pense qu'il y aura quand même une vigilance et un contrôle qui sera fait. Malgré tout, on a quand même une direction de la Générale des fraudes qui a déjà fait du bon travail sur les masques. Puisqu'il faut savoir qu'il y a quelques réseaux, notamment, qui ont été démantelés en France par des gens qui profitaient de l'occasion pour vendre des masques qu'ils avaient acquis, soit d'une manière un peu suspecte, on va dire.
Mais il y a des distributions de masques gratuites qui vont être organisées, n'est-ce pas?
Alors, après, aujourd'hui, il n'y a pas de doctrine claire sur le sujet. Donc, il y a les pharmacies qui sont là. Les collectivités territoriales, si elles veulent s'y associer, elles peuvent s'y associer. C'est ce que nous, on a aujourd'hui sur le Haut-Rhin et sur le Bas-Rhin. Il y a déjà eu des initiatives dans d'autres régions. Après, il va falloir aussi s'assurer que toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à un masque, de toute façon, à partir du moment où vous serez malade, vous aurez automatiquement des masques qui vous seront fournis par la pharmacie, en tout cas, puisque ce sera fera partie des préconisations médicales.
Gratuitement?
Ben, c'est dans le cas, en fait, de prise à charge par la sécurité sociale.
D'accord.
C'est-à-dire que
prescrit par un médecin.
Oui, c'est prescrit par un médecin. Déjà, il y a cette partie-là. Après, il y aura les initiatives locales. Moi, je vois déjà des gens qui achètent des masques. Ils aiment bien avoir les masques à leur couleur, personnalisés, et ainsi de suite. Je pense qu'on pourra avoir beaucoup de surprises sur le sujet des masques, de ce qu'on verra dans la rue.
Comment ça va se passer dans les écoles, par exemple?
Au niveau des écoles?
Pour les masques.
Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, dans la problématique du masque. La problématique du masque, comme je vous l'ai dit, c'est déjà, il n'est pas obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire? Parce que je
Mais il le sera dans certaines écoles, il sera dans les collèges.
Alors, après les annonces. Il peut être rendu obligatoire, effectivement, il peut être rendu obligatoire dans certaines écoles. Après, la problématique dans les écoles, effectivement, c'est comment dire, à l'éducation nationale ou aux collectivités territoriales, puisque c'est les collectivités territoriales qui sont en charge
des écoles. Dans les départements.
Donc les mairies pour les écoles primaires, les départements pour les collèges, pour les lycées, ce sont les régions. Bon, elles déjà, je sais qu'elles sont déjà en train de travailler sur le sujet d'approvisionnement des masques au niveau des écoles. Après, comme le déconfinement se fera de manière progressive, on a aussi cette capacité de pouvoir le faire de manière progressive, de fournir les masques de manière progressive.
D'accord.
Après, comme dit, je comprends la situation sur les masques. Mais je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai vu une personne tout à l'heure en venant à ma permanence ce matin, qui était en voiture, qui avait le masque au niveau de la barbe et qui se grattait le visage. En fait, elle n'aurait pas porté le masque, ça aurait été exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'il se passe quoi? Comme je vous l'ai dit, la plus grosse taux d'infection, c'est ça. Je prends un masque, je le mets, je l'enlève, je me gratte et je le remets. En gros, je n'aurais pas porté le masque, ça aurait été pareil.
Oui, il faut éduquer les gens aussi à l'utilisation.
Voilà, il va falloir faire un gros travail d'éducation. Je vous invite d'ailleurs, il y a une petite vidéo très sympa qui a été faite par le CHU de Nantes qui s'appelle The Mask, qui est très bien, c'est un ton un peu humoristique, qui explique très bien, clairement et très facilement comment il faut mettre le masque, comment il faut l'enlever. C'est aussi toute une éducation.
Oui, c'est important, bien sûr, il faut faire de la pédagogie là-dessus, bien sûr.
Parce que juste porter un masque, mais en même temps le baisser pour se gratter ou ainsi de suite. Ça n'a aucune utilité.
Oui, bien sûr, surtout si on touche avec les mains. Effectivement. Je voulais juste vous poser une dernière question, si ça ne vous dérange pas.
À votre disposition, pas de souci.
Super, merci. Vous parliez tout à l'heure que certaines mesures vont être précisées par rapport au plan de déconfinement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un calendrier par rapport à ça? Vous avez des éléments?
Ah ben, le calendrier, il a été donné clairement. Donc, il sera présenté au Conseil.
On en reparle voilà. pour...
Il sera présenté au Conseil des ministres samedi. Donc, c'est-à-dire que nous, on aura accès au texte de loi des samedis ou ce week-end. Il sera discuté à l'Assemblée puis au Sénat dans la suite la semaine prochaine. L'idée, c'est que le texte soit effectivement adopté fin de semaine, que ce soit jeudi, notamment quand c'était fait pour les FA2, et que derrière, effectivement, on puisse mettre en place très rapidement et sortir les décrets nécessaires pour la mise en œuvre et l'application, pour qu'on soit prêt pour le 11 mai. Sachant que l'objectif, c'était du 11 mai, qui, pour l'instant, je vous le dis quand même, je le rappelle, est encore une date provisoire qui sera très dépendant des conditions sanitaires.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez, vous, que ça pourrait être reporté, du coup, étant donné l'évolution? Quand est-ce que ce sera décidé d'ailleurs, ce
non,
report?
Non, je pense que ce ne sera pas reporté. Parce D'accord. que, en fait, comme on est sur un déconfinement qui sera territorialisé, tous les territoires ne seront pas forcément la même enseigne. Nous, en Alsace, on a forcément une forte tension, particulièrement sur le Haut-Rhin et sur Strasbourg. Moi, encore dans ma région de Nord-Alsace, on a été touchés. Ils ont réussi vraiment, fait un super boulot, ils ont réussi à faire face. Ils ont presque triplé leur capacité, ce qui était énorme le travail qui était fait. Mais malgré tout, il y a le côté effectivement de savoir le nombre de personnes qui sont dans les services de réanimation, mais il faut aussi voir dans quel état sont les effectifs. Ça, c'est un point aussi important à prendre dans la décision. Et notamment dans ces régions qui ont été fortement touchées, on peut penser aussi à Paris, où les effectifs ont été très, très, très sollicités. Des soignants qui, des fois, ont travaillé quasiment presque 7 jours sur 7, dans certains cas. Donc ça, il faudra aussi le prendre en compte de savoir est-ce que les équipes sont en place. Ce n'est pas que le nombre de personnes qui sont hospitalisées, mais est-ce que les services de santé sont en état? Est-ce que les gens ont pu se reposer aussi? Moi, je sais qu'à l'hôpital qui gère ma circonscription, qui gère plusieurs hôpitaux, qui est un tel centre, en fait, sur un territoire de santé, assez rapidement, ont mis en place déjà des process pour accompagner, pour faciliter, effectivement, pour permettre aussi aux personnes de santé de pouvoir avoir des moments de répit, parce qu'on aura encore besoin d'eux. Et comme dit, le virus, il est là. Il sera encore là dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Sauf, effectivement, on l'espère tous, qu'il y ait un miracle et qu'on arrive à trouver un vaccin d'ici là. Mais pour l'instant, c'est très, très, très hypothétique.
D'accord. Les choses avancent à ce niveau-là?
Alors, on voit qu'il y a des tests qui sont faits, notamment l'Allemagne est en train d'avancer apparemment sur ce sujet. Les Chinois ont annoncé des essais cliniques sur le sujet des vaccins. Après, il y a toujours un temps. C'est le temps qui nous paraît tous absolument horriblement long, qui est le temps de la recherche et de prouver médical. Parce qu'en fait, comme dit, un vaccin, c'est noter son efficacité dans une éprouvette en laboratoire est une chose. Après, il faut voir comment il réagit sur le corps humain. Et surtout, ce qui est très important, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir. Ne rajoutons pas la crise sanitaire, notre crise sanitaire par-dessus qui prend la garde. Et d'ailleurs, il y a un gros sujet d'inquiétude aussi aujourd'hui, et ça, j'invite nos auditeurs et ceux qui nous écoutent à bien appuyer sur le fait que si vous voyez des gens autour de vous qui ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils ont des symptômes et qui ne sont pas liés au Covid, allez-y, parce que nous, on voit aussi en Alsace, on a des gens qui ont fait des infarctus, des petits infarctus ou des petits AVC, ils n'ont pas voulu aller à l'hôpital, ils ont attendu 10 jours, mais forcément, leur état de santé s'est aggravé. Ça aussi, c'est un gros sujet d'inquiétude.
Oui, tout à fait. Monsieur le député, je vous remercie beaucoup.
Ben c'est moi qui vous
Très
remercie. Merci
sympa
beaucoup pour
de
l'échange.
votre part de participer
Je vous en
à
prie.
ce live. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure?
Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reste. C'est compliqué à le dire maintenant, dans cette période de crise, dans cette période où effectivement on est beaucoup, mais il faut qu'on reste optimiste. Il faut qu'on se ressoude autour de nos vraies valeurs. Au-delà de nos divergences et de nous rappeler que la France, c'est 3 piliers, c'est la liberté, c'est l'égalité, mais surtout, c'est la fraternité. Et dans la fraternité, il y a ce que je dis toujours, il y a effectivement la solidarité, mais il y a aussi les devoirs, réciproques entre l'État et les citoyens, mais surtout que chaque citoyen, que chacun nous avons vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'il faut qu'on ait pleinement ça en conscience, on a besoin d'être solidaires, de tous aller dans le même sens. Je ne dis pas que forcément tout au niveau politique se fait de manière exemplaire et admirable. Je n'ai vraiment pas la prétention de dire que même moi-même, je suis parfait. Loin de là, vraiment loin de là. Il y aura certainement des erreurs. Il y aura certainement aussi des erreurs circonstancielles liées à l'immédiateté de ce virus et à la brutalité de ce virus. Mais ça sera le temps du débat. Il faudra qu'on en prenne compte dans un deuxième temps. Il y a des questions auxquelles il faudra répondre. Mais chaque chose en son temps.
Merci beaucoup.
Merci à vous, passez
Très
une
belle
bonne soirée
soirée. Au
et
revoir.
bonsoir à tout le
Merci.
monde. Au revoir.
À bientôt.